Votre grand journal de soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, vous êtes avec Mathieu Béliard.
Pensez-vous que les mesures du gouvernement vont mettre fin à la violence? Je vous pose la question, vous intervenez au 39-21 ce soir et je vous présente mes invités. Jean-François Amadieu qui est sociologue, professeur à l'université Paris 1 Sorbonne, auteur de La société du paraître chez Odile Jacob. Bonsoir Jean-François Amadieu.
Bonsoir.
Spécialiste des mouvements sociaux. Nous sommes également avec Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir Benoît Barret.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Hugo Travers, comme tous les mardis. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
YouTuber, sa chaîne Hugo des cryptes sur YouTube, étudiant à Sciences Po notamment. Bonsoir Hugo, soyez le bienvenu comme tous les mardis. Et puis, comme tous les soirs, on a un petit sourire, nous retrouvons notre cher Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Alors comme chaque jour avec vous Benjamin, on écoute comment les médias traitent un sujet de l'actualité. Vous avez choisi quoi aujourd'hui Benjamin?
C'est l'une des grandes infos du jour, on l'a appris dans l'après-midi.
Le pape refuse la démission du cardinal Barbarin. Le souverain pontife invoque la présomption d'innocence.
Alors, pour les spécialistes, cette annonce était plutôt attendue, mais malgré le refus de cette démission, évidemment, cette affaire permet toujours de libérer la parole sur la pédophilie dans l'Église, et c'est une très bonne chose pour Christine Boutin, invitée de Sud Radio.
C'est un début de chemin de purification qui était certainement nécessaire à l'Église, et qui, à mon avis, comme souvent, va donner l'exemple à toutes les autres institutions du monde.
Voilà, l'Église qui va donner l'exemple au monde entier. On n'y est pas encore sur ce sujet, mais on verra bien dans les prochaines semaines. Ça m'a rappelé cette interview de François Ozon, c'était le mois dernier chez Nikos sur Europe 1. Il parlait de son film Grâce à Dieu, film sur l'affaire Prénat Barbarin, et de ce que tourner celui-ci de film lui a appris sur l'Église.
Alors j'ai appris qu'il y avait beaucoup de résistance, voilà, quand on essaye de briser un silence, quand il y a une omerta qui existe depuis très longtemps dans une institution. Voilà, l'institution essaye de se défendre. Pendant très longtemps, elle a fait le silence sur les abus sexuels. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de se briser.
Voilà, pour se briser, avancer, ok. Mais alors comment on fait sur LCI aussi? Ils se sont posé la question tout à l'heure.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on voit bien que la pédophilie, c'est quand même un peu le cancer de l'Église catholique. Quelle est selon vous la solution?
Voilà, bon débat, bonne question. Et alors parmi les invités, l'abbé de la Morandée était en studio. Vu sa réponse, on se dit qu'il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot.
On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Dans les échos que j'ai eu des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme. Et souvent, ce sont des gamins en frustration de tendresse. Donc, ils vont chercher de la tendresse.
La responsabilité, enfin, elle est chez l'adulte, par
exemple. Bien entendu. Ouais.
Alors, ouf, il dit bien entendu, à la fin, bien entendu. Sauf que problème, après bien entendu, il y a un mais.
Bien entendu. Ouais, ouais. Mais le gamin, il va chercher. Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient et vous embrasse sur la bouche.
Non.
Ah si,
non.
Moi, j'ai vu ça.
Voilà pour le grand moment de malaise, pour sobrement, avec l'abbé de la Morandée. Ça m'a rappelé ses propos il y a 15 jours de Yann Moix. Lui, il parlait des accusations de pédophilie visant cette fois Michael Jackson.
C'est ne rien comprendre à Michael Jackson, car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant, ça ne couche qu'avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants.
Donc, on résume, ce sont les enfants
mais le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout maintenant.
Et souvent, on dit un peu des conneries. Mais donc, pour résumer, les enfants chauffent les adultes, c'est bien connu. Adultes qui, s'ils sont des enfants dans leur tête, ne peuvent pas être qualifiés de pédophiles. Le débat a de bonnes bases. Mais pour en revenir à Barbarin, c'est quand même notre sujet du jour. Pour le journaliste Nicolas Domenac, le cardinal devrait s'inspirer maintenant de Jésus.
Il est le représentant de Dieu sur terre, si j'ose dire, et le Christ a pris ses péchés, les péchés des hommes sur lui, et qu'il prenne ceux de tout le corps épiscopal qui a fauté avant lui, plus les siennes, me paraîtrait sain.
Voilà, s'inspirer de Jésus, pourquoi pas. Le mot de la fin sur ce sujet avec Florence Weimar, militante associative catholique, plutôt progressive sur le sujet. Elle était hier soir votre invitée, Mathieu.
Aujourd'hui, est-ce que l'Église considère encore que la justice de Dieu est supérieure à la justice des hommes?
Oui. Dans le fond de notre cœur, la justice de Dieu est supérieure à la justice des hommes, dans le sens où moi je pense que le droit canonique devrait être encore plus sévère parce qu'il est ordonné à la charité.
Et c'est pas le cas.
Ou en tout cas, si c'est le cas, on remarquera que la présomption d'innocence de la justice des hommes prévaut face à la justice divine. Affaire à suivre, on risque d'en parler encore un peu.
Merci Benjamin. Benjamin Muller, tous les soirs. 19h27, vous êtes sur Europe 1. Pensez-vous que les mesures du gouvernement vont mettre fin à la violence? Le débat, on revient dans quelques secondes. A tout de suite.
Il est 19h. 19h30, vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, auteur de La Société du Paraître, paru chez Odile Jacob, Benoît Barré, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, section Provence, et le youtubeur Hugo Travers, comme chaque mardi, que vous suivez sur sa chaîne Hugo Décrypte.
C'est toujours en débat ce soir, après le samedi de violence que nous avons connu sur les Champs-Élysées, notamment après les annonces d'Edouard Philippe. Vous intervenez au 39-21, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Pensez-vous que les mesures du gouvernement vont mettre fin à la violence? La question, je vous la pose telle quelle. Benoît Barré, secrétaire national adjoint d'Alliance Police Nationale. Le sentiment d'un bon virage côté gouvernement?
J'ai envie de dire enfin. Je dis, on ne peut pas laisser continuer comme cela, impunément, des délinquants, des voyous, des criminels, chaque week-end, de façon institutionnelle, quelque part. On fait quoi samedi? Samedi, on va casser du flic. En même temps, on va piller 2-3 magasins. En profiter pour mettre le feu à un immeuble, avec un peu de chance, il y aura des personnes au-dessus, sauvées par des policiers qui ne sont pas pompiers, je vous rappelle. Et puis tous les samedis, on va faire ça. Bah oui, parce qu'au final, on risque quoi? Pas grand-chose. Combien de condamnations fermes, j'entends? Heureusement, la justice, il y a eu un virage dernièrement, effectivement, qui a peut-être entendu, je n'ai rien contre la justice, que les choses soient très claires, qui ont peut-être entendu aussi l'appel des policiers, l'appel du citoyen normal, hein, pas le citoyen qui en veut la société. À un moment donné, oui, il faut que ça tombe aussi, les peines de prison. Alors, on attendait aussi du politique, une bonne fois pour toutes, un vrai discours coercitif, parce que depuis des semaines, des mois, on entend quelque chose qui me choque, en tout cas. Enfin, nous, Alliance, on est choqués de ça. On a réussi à faire croire, dans les médias, par des bien-pensants, par des institutions européennes, qui ont quand même une portée importante, par le défenseur de droit, M. Toubon, on a réussi à faire croire, quand même, que les violences étaient dues du fait des policiers. Énorme. Scandaleux. C'est inacceptable.
C'est presque un autre débat, même si évidemment ils sont indissociables.
Et j'arrive
à votre question.
J'arrive à ça. On a l'impression, on parlait toujours des conséquences sans parler des causes. Et c'est comme ça que je vais répondre à votre question. On doit d'abord s'attacher aux causes. Pourquoi les collègues tiraient et voir ce qui se passait. Bien, aujourd'hui, on entend le politique et le Premier ministre en premier qui dit oui, on va revoir cette doctrine. On va remettre des forces mobiles et des policiers plus mobiles, mais surtout qui vont l'interpeller, qui vont le contact. Et là, je réponds à votre question. Enfin, et en disant, il y aura des conséquences. Enfin, on accepte de dire que les policiers agissent dans le cadre de la loi et que s'ils doivent interpeller, s'il y a des blessés, bah oui, effectivement, une personne qui reste...
C'est pas on accepte, on assume.
Oui, on assume et on accepte aussi.
On accepte et on assume.
Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens, des black blocs, des gilets jaunes radicalisés qui balancent des pavés, des cocktails Molotov, on y reviendra, on a le temps, et qui après se plaignent parce qu'ils sont blessés, parce qu'il y a une charge policière, ça je ne l'accepte pas.
Hugo Travers.
J'entends totalement l'exaspération évidemment des forces de l'ordre et le fait qu'il y ait des violences qui viennent et qui sont massives et récurrentes depuis des mois et j'imagine que c'est une fatigue importante. Mais concernant le discours politique, notamment celui de Christophe Castaner, parce que c'est celui dont on parle principalement avec le Premier ministre, je suis quand même étonné que ce discours vise à nier totalement la question de violences policières. Quand ce matin sur France Inter, Christophe Castaner déclare « Arrêtons de parler de violences policières, je ne connais pas de policiers qui attaquent les manifestants, etc. »
Il a raison.
On a quand même des faits, on a quand même des éléments qu'on peut voir et qui sont circulés. Tout à l'heure, Europe 1 recevait David Dufresne, qui est sur les réseaux sociaux très actif et qui relaie ces éléments-là. Est-ce que c'est le fait d'une minorité? Effectivement, probablement, je ne suis pas en mesure en tout cas de prouver que c'est le fait d'une majorité de policiers. Mais c'est un problème qui est très, très présent et je suis assez étonné et même choqué que le gouvernement, dans son approche de ce sujet qui est très important, ne traite qu'un aspect du problème. Et il y a quand même une question de la violence policière qui a été pointée
Macron
du doigt, comme vous l'avez dit.
Disait, on ne peut pas parler de violence policière. Dans un état de droit.
Bien sûr, mais ils ont raison.
Mais ça a été pointé du doigt par le Parlement européen, par l'ONU, par le Conseil de l'Europe.
Alors moi j'invite tous les donneurs de leçons, j'invite tous ces gens-là.
C'est pas une donneur de leçons, c'est juste donner des deux éléments du débat.
Je vais vous le dire. Moi j'invite tous les gens, tous les donneurs de leçons, dire faut faire ci, faut faire ça, à venir sur une manifestation et voir ce qui se passe en face de vous. Vous me dites, il y a des violences policières. Moi j'affirme que non. Parce que vous êtes toujours dans le débat des conséquences. Vous n'êtes pas dans le débat des causes. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire oui, une arme ne blesse pas? Complètement faux. Les policiers, il faut bien se défendre. On se défend comment ? Dites-moi, vous prenez des billes d'acier. Je parlais tout à l'heure, dans le 85, les mecs qui prennent des mammouths fusées, les gros pétards, là, qui mettent de la colle autour avec des billes, des pointes, des bouts de verre et qui balancent ça au pied des collègues. Bon, c'est pas des black blocs, il n'y en a pas dans le 85.
Non, non, mais Benoît Barret, pardon, parce que c'est important, allez, pour aller quelques secondes, même si on dévie un tout petit peu de la question.
Bah oui, à chaque fois.
Mais c'est, ça reste important dans les réponses qu'on reçoit, en tout cas aussi de nos auditeurs. La République, c'est pas œil pour œil, dent pour dent.
Non. Bien sûr que non, mais c'est ce qu'on veut lui faire croire. Hein. C'est ce qu'on veut lui faire croire. Les policiers aujourd'hui, lorsque vous êtes dans les manifestations, lorsqu'elles sont interdites, il y a une loi, il y a la loi qui prévoit ce qu'on doit faire. D'accord ? À partir du moment où la manifestation n'a pas été autorisée, d'ailleurs, c'est pour ça que la loi ne va pas assez loin. En tout cas, on pourra peut-être y revenir là-dessus. Lorsque vous participez à une manifestation interdite, l'organisateur, c'est un délit. Les participants, c'est juste une contravention, c'est pas suffisant, il faut que ce soit un délit. Mais il n'empêche que lorsque les policiers sont agressés, lorsqu'il y a des ordres de partir de la voie publique parce qu'on veut utiliser la force, mais les gens qui restent là, les gens qui restent malgré le fait qu'on vous dise « ne restez pas là, ça va chauffer ». Mais les gens qui restent là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On ne doit pas rester sur place lorsqu'on voit que des policiers sont agressés, lorsqu'on voit que les policiers se défendent. C'est en ce sens qu'on ne peut pas accepter le terme de violence policière.
19h36.
Europe 1.
On n'a pas encore parlé de cette question-là avec Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux, à qui je donne la parole juste après la pause sur la doctrine du maintien de l'ordre. Il y a eu un changement très net hier dans le discours du gouvernement. On y revient dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités, le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne. Hugo décrypte, Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale section Provence, et Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, auteur de La Société du Paraître chez Odile Jacob.
Jean-François Amadieu, je prends simplement la une du Monde, parue à la mi-journée, datée de demain. Édouard Philippe assume les risques d'une ligne dure face aux casseurs. Ce qu'on appelle une ligne dure, faut bien lire entre les lignes, il y a un changement de doctrine radicale dans le maintien de l'ordre en France. Là.
Absolument, c'est affiché, assumé. Alors c'est vrai que beaucoup de syndicats de police saluent cette initiative. En tous les cas, ça vise à être décomplexé. Et surtout, c'est assumer les conséquences humaines, donc on parle bien de ça, hein, c'est les dégâts humains, les morts, les blessés, qui résulteront du maintien de l'ordre, du respect de la règle. Sachant que la doctrine française, souvent on parle des suites de l'affaire Malik Oussekine en 1986, c'est qu'effectivement on évite à tout prix les conséquences humaines. Donc les dégâts, concrètement, le reste, c'est les assureurs qui payent, et on ne va pas au contact, on évite les coûts humains de part et d'autre, donc la police doit se protéger également. On essaie de minimiser ces conséquences, il y en a quand même, mais on essaie de les minimiser à tout prix. Le reste, c'est l'affaire des assureurs, ce ne sont que des biens matériels, donc pour l'instant, le raisonnement c'est celui-là. Pour quelle raison ? Il faut quand même le rappeler. Principalement, c'est d'abord parce que la vie humaine, l'intégrité, c'est plus important qu'au 19e siècle ou que dans d'autres pays du monde, en France, donc on n'a pas la même conception, on ne maintient pas l'ordre de la même manière, il faut quand même le rappeler, que dans d'autres régimes, et que deuxièmement, les réactions médiatiques dans notre monde ne sont pas du tout les mêmes, et qu'il faut rappeler que si l'exécutif est toujours très prudent et a cette doctrine, c'est parce que l'opinion va se retourner. L'opinion... et les derniers exemples qu'on avait, il peut s'agir du barrage de Sivens ou d'autres épisodes, et c'était déjà le cas bien sûr pour Malik Oussekine, instantanément l'exécutif doit tout de suite reculer et c'est ingérable. Donc peut-être que les choses changeront. Je voudrais dire que les choses vont être compliquées pour une autre raison, c'est que le ministre de l'Intérieur, reçu par les parlementaires, auditionné, a déclaré aujourd'hui qu'il y avait 1500, samedi, il y avait 1500... casseurs, j'allais dire professionnels, les fameux Black Blocs, ces militants d'ultra-gauche et les anarchistes, on les a bien vus. Ça, il l'avait déjà dit, mais il a ajouté qu'il y avait par ailleurs, je le cite, 8500 casseurs présents, prêts à tout, prêts à tuer. Ce qui veut dire que sur les 10 000 présents, vous aviez non plus seulement 1500 casseurs, mais les 8500 autres. Alors, vous voyez toute la difficulté dans les temps qui viennent, car si vous considérez, à la faveur de ce changement de doctrine, qu'il y a 10 000 personnes, et pas seulement interpellées, 1500, mais que tous les autres sont des tueurs et des casseurs, évidemment, l'exercice va prendre une autre proportion, vous le comprenez. C'est-à-dire que, compte tenu du changement de doctrine, ça veut dire que les forces de l'ordre vont devoir se déployer et en tous sens et assez vigoureusement pour avoir raison de 10 000 personnes. Vous voyez, c'est plus du tout. Le tableau change. Les choses changent de nature. Donc, il est à craindre que les déclarations du ministre soient peut-être pas tout à fait, elles seront peut-être efficaces parce qu'elles vont peut-être dissuader beaucoup de venir et peut-être de prendre ce risque de se faire interpeller, mais et des conséquences. Mais je sais pas si ça peut être vraiment suivi des faits, parce que vous voyez que les deux déclarations mises l'une à côté de l'autre, évidemment, c'est quand même très compliqué. Surtout que bon, on va pas relancer le débat sur la question des violences policières, etc. Ça, c'est un autre.
Débat. Non, mais la réalité, parce qu'il faut j'ai dit ligne dure, il faut bien comprendre ligne dure. Ah oui. Le mot-clé, c'est assumer. C'est le mot assumer. C'est-à-dire, Benoît Barré, et d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, côté manifestant, on pense à la jurisprudence Malik Houssekine, vous avez parlé du barrage de Sivens aussi, Jean-François Amadieu, mais du côté des forces de l'ordre aussi. On a vu déjà sur des manifestations au pied de l'Arc de Triomphe, des CRS isolés, on a vu ce gendarme mobile sur le pont avec Christophe Détinger. Si on va au contact, ça veut dire qu'on peut avoir un homme en bleu isolé. Concrètement, c'est le mot assumer. On assume qu'il reste peut-être... après samedi prochain, des hommes sur le carreau.
Ouais, c'est le risque, évidemment. Effectivement, c'est le risque. Vous savez, le problème du MO, du maintien de l'ordre, le problème de ce qui se passe tout le week-end au Gilet jaune, avec les manifestations des Gilets jaunes, c'est que chaque week-end, quasiment, c'est l'insurrection, quoi. La question, c'est effectivement jusqu'où on est prêt à aller, en tout cas pour faire cesser cela. On ne peut pas non plus accepter que tout le week-end, vous ayez ces scènes que vous connaissez. Et je ne crois pas que le ministre dise qu'on va interpeller tout le monde. Je n'ai pas entendu les chiffres que vous donnez. On ne va bien sûr pas interpeller 10 000 personnes à la fois. Ça paraît totalement impossible. Par contre, ce que je vous dis, c'est que les policiers qui sont formés, et s'ils sont bien équipés, effectivement, on doit être capable d'interpeller, d'aller au contact des plus dangereux. Effectivement, là, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine qui consiste à laisser faire, à ne pas rentrer en contact, que ce que vous dites par rapport aux assurances, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tout le week-end, on passe toujours près d'un drame, et c'est crescendo.
On regarde du mobilier urbain,
c'est une chose, le mobilier urbain, ça a des conséquences financières, certainement les importantes, kiosques. Bien sûr. Okay. Moi, je parle aussi des conséquences physiques pour tout le monde. Il n'y a pas que les flics, malheureusement, qui prennent. Il n'y a pas que les gilets jaunes, vous avez aussi des tierces personnes qui peuvent prendre. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas homme politique, je suis délégué syndical. Je me préoccupe d'abord des collègues qui en prennent plein la tronche maintenant depuis des semaines, mais je me dis que l'homme politique, il doit être aussi capable de réagir. Voilà. Et effectivement, qu'il y a un changement de ton, c'est indispensable. Qu'il y a une loi anti-casseurs qui doit passer, et j'espère que les décrets d'application iront très vite, ça va être indispensable. Comment on pouvait accepter encore en France qu'on puisse manifester avec une cagoule et que ce soit une contravention? C'est n'importe quoi. C'est peut-être symptomatique, mais n'empêche que tout se laisser aller, se laisser faire depuis des années, on arrive dans une situation qui doit être maintenant gérée.
19h45. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, le débat qui continue avec Benoît Barré, que vous entendiez, Jean-François Amadieu, Hugo Travers également. On revient dans quelques secondes.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et vos invités, Mathieu, Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, auteur de La Société du Paraître chez Odile Jacob, Benoît Barré, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale Section Provence, et Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube.
Il faut bien comprendre, parmi les décisions qui ont été prises hier, une décision très politique, le limogeage du préfet, son remplacement par monsieur Lallemand, les interdictions de manifester dans certains périmètres précis. Alors sur les Champs-Élysées, on sera ravis, pas sûr qu'on soit content sur les autres endroits qui pourraient être choisis pour manifester, mais voilà, la doctrine du maintien de l'ordre et cette inversion finalement, cette possibilité donnée aux compagnies de CRS ou aux gendarmes mobiles d'avoir plus d'autonomie, d'aller au contact. Hugo Travers.
Oui, ce qui me semble compliqué aussi pour le gouvernement, c'est que cette fois-ci ils sont face à une situation où la réponse est seulement sur cette question de la réorganisation du maintien de l'ordre, et c'est assez compliqué d'imaginer d'autres alternatives. Ce que j'entends par là, c'est qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait la question du retrait de la loi sur le carburant, il y avait la question de l'organisation d'un grand débat, il y avait tous ces éléments qui, en fait, qui étaient des questions politiques en réponse aux revendications des Gilets jaunes auxquelles pouvait répondre le gouvernement. Là, on est dans une situation où ceux qui ont cassé et ceux qui étaient responsables de ces violences samedi dernier, ce sont des gens qui font partie des Black Blocs pour certains, qui sont des anarchistes, qui ont des revendications auxquelles le gouvernement ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse politique, comme on entend ici dans ce point-là, parce qu'il y a un désaccord qui est tellement profond qu'il ne peut pas y répondre. Donc c'est un moment où effectivement la seule réponse dans ce cas-là, c'est une question de la réorganisation. Après, on est pour et contre, mais en tout cas c'est un élément auquel il est obligé de répondre.
Faible réponse politique finalement. Benoît Barré.
Non, mais je souscris totalement. c'est très clair. C'est vrai que la première réponse, c'est effectivement rétablir l'ordre public. Ça, c'est très clair. Je crois que c'est, nous on est flics, hein, on est fonctionnaires, on écoute aussi tous les gens. On est chargé d'une mission de service public extrêmement importante, hein, celle de la sécurité publique, justement. Je crois que les gens attendent ça, hein, attendent ça. Et le politique, de toute façon, il peut pas passer à côté de ça là. Il doit rétablir l'ordre public.
Je me suis engagé avec les auditeurs qui sont intervenus au 39-21 plutôt à vous poser la question, Benoît Barré, est-ce qu'il y a un problème de justice, de réponse pénale après ces événements-là?
Bah, je crois que je vous ai répondu tout à l'heure. Oui, il y a un problème de justice, de réponse pénale, bien sûr. Il n'y a pas assez. Il faut que lorsque des gens commettent l'inacceptable, il faut que ces gens soient et la certitude de la peine. Mais pas des peines aménageables. Aujourd'hui, en France, une peine de moins de 2 ans, vous n'allez pas en prison. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est des peines qui vont jusqu'à 5, jusqu'à 10 ans de prison. Il faut que ça tombe. Il faut que le mec, lorsqu'il est interpellé, lorsque le collègue l'interpelle, il faut que cette personne aille en prison. Il n'y a pas le choix. Alors, c'est vrai que la justice a beaucoup de difficultés. Mais une autre mesure également. Aujourd'hui, vous savez, en 20 ans, il n'y a eu que moins d'une trentaine d'interdictions, de peines complémentaires d'interdiction de manifester. Mais franchement, de qui se fiche-t-on? Une personne qui a été interpellée...
Pardonnez-moi, Benoît Barré, mais toutes ces mesures, la possibilité de répondre pénalement ou alors la possibilité donnée aux forces de l'ordre d'aller au contact. Et la question est valable pour vous trois autour de la table, finalement. Le Black Bloc, qui arrive parfois de l'étranger, qui peut être français également, qui vient sans papier d'identité, il faut le souligner aussi, qui vient pour casser... de la vitrine, mais qui vient aussi pour casser du flic. Ces annonces-là, ils s'en moquent complètement, le Black Bloc.
Ouais.
Jean-François Amadieu.
Oui, alors surtout dans la mesure où jusqu'à présent, il a réussi à échapper. En général, il échappe au contrôle. C'est pas lui qui se fait arrêter. On le sait très bien. On le voit après, lorsque les gens sont à préjuger. Donc effectivement, en plus de ça, apparemment, si on en croit pour le ministère de l'Intérieur, ils auraient été 20% étrangers. Donc de toute façon, ils seront repartis. Et surtout... Bon, je pense pas qu'effectivement toutes ces mesures vont beaucoup les impacter.
Ça, c'est sûr. D'où le fait que ça risque d'amener une sorte de radicalisation. Alors, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais dans le sens où les gilets jaunes qui sont gilets jaunes et qui veulent manifester vont du coup se dire bon bah non, on n'a pas envie de prendre des risques, on n'a pas envie de se retrouver au milieu de tout ça, donc on va ne pas y aller. Et donc ne vont rester au final potentiellement que des black blocs et que des forces de l'ordre, ce qui peut donner une situation assez terrible et peut-être du coup une reproduction de ce qu'on a vu samedi dernier. C'est quand même un risque qui me paraît assez important.
Benoît Barré.
Bah ouais. Mais c'est pour ça que la loi doit changer. Participer à une manifestation interdite, ça doit être un délit.
C'est une contravention.
La réponse, c'est on augmente de 35 à 130 et quelques euros. C'est pas suffisant, ça. Il faut que ce soit un délit. Je reviens à les Black Blocs. Effectivement, ces mecs-là, de toute façon, c'est des cérébrés. Ils se foutent de tout. Ils se fichent de la démocratie. Ils sont là que pour casser, piller, blesser gravement, voire tuer. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, nous, aujourd'hui, c'est que les collègues, les flics, ils attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir interpeller ces mecs-là. Parce que le flic n'a pas peur. Si le flic, demain, avec des discours, et on lui donne les moyens de faire, on lui dit tu fais, parce que tu vas être suivi, parce que ces mecs-là, il y en a marre, on ne peut plus accepter ça. Le flic demain, il va interpeller ces gens-là. Mais lorsqu'ils vont être interpellés, ces délinquants, ces criminels, j'emploie le terme sciemment, ben ces mecs, ils devaient être en comparution immédiate, ils devaient aller en taule. Voilà.
Jean-François,
c'est un peu cru, mais c'est la vérité.
En fait, tous les Français sont évidemment d'accord avec le fait qu'on interpelle et qu'on arrête les 1500 casseurs qui ont opéré. Et personne ne le soutient, évidemment. Mais ce que tout le monde sait, et c'est ça toute la difficulté, tout le monde l'a bien compris, c'est que malheureusement, lorsque vous vous livrez à l'exercice, le problème n'est pas que vous allez blesser ou tuer un des militants anarchistes en question. C'est pas ça la question. C'est que forcément, en le faisant, et vous le savez bien, il y a beaucoup de monde autour, des tas de gens qui sont là, et on le sait très bien, qui, eux, n'étaient pas des casseurs, plus maladroits, moins mobiles. Je rappelle qu'il y a des retraités, il y a des quinquagénaires, des mères de famille, etc. Ils sont moins mobiles.
On risque de ratisser large.
Mais évidemment, on ratisse large, tout le monde le sait très bien. Et le problème, après, ce qu'on appelle violence policière, le terme, en effet, peut choquer. Je comprends qu'un policier trouve le terme malheureux. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est que, tout simplement, comme on, le dérapage, comme on dit, ou la bavure, etc., est assez inévitable. Il faut, et tout le monde le sait. C'est bien pour ça, d'ailleurs, c'est pas moi, j'invente pas. Beaucoup de vos collègues expliquent depuis le début que lorsque vous avez plein de manifestants, c'est d'ailleurs la tactique des militants Black Bloc, je vous le signale, c'est que ces anarchistes considèrent que, et bien entendu, il faut se mêler aux autres. Et ils le disent, ils le théorisent d'ailleurs, et vous allez toujours dans les défilés. Alors, et donc après, c'est très compliqué.
On est au bout, Benoît Barret, d'un mot, parce que je vous vois baisser en face de Jean-François Madieu.
30 secondes.
Même pas. Allez-y.
Lorsqu'on est dans une manifestation interdite, ou lorsque ça se passe mal, lorsqu'il y a des sommations où trois fois on vous dit qu'il faut partir parce qu'on va employer l'usage de la force, vous ne devez pas rester. Point. Vous ne devez pas rester.
Merci beaucoup, merci d'avoir fait court aussi. Benoît Barret, le secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, était avec nous en studio. Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, professeur à l'université Paris 1 Sorbonne. Je rappelle votre livre, La Société du Paraître, aux éditions Odile Jacob, et Hugo Travers, que vous retrouvez sur YouTube, sa chaîne Hugo Décrypte, ou alors que vous retrouvez sur les bancs de Sciences Po si vous avez reçu le concours. À mardi prochain, Hugo. Merci à vous trois, 19h55. Émilie Mazoyer, bonsoir.
Faites pas le malin, vous l'avez eu le concours?
Pas du tout, j'ai tenté.
Voilà.
Je l'ai tenté une fois.
Mais c'est parce que vous étiez trop fort.
Ça doit être ça. Oui.
C'est ça, vous leur avez fait peur. Ce soir, on va parler d'un bouquin, figurez-vous, parce que nous aussi, on a des lettres. C'est le nouveau roman de Cali. C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Cali qui avait écrit un premier roman sur l'enfance, très beau, et là son deuxième roman parle de l'adolescence et particulièrement de l'année de ses 15 ans. Ça s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper, et on va en parler tout à l'heure avec Cali.
Avec Cali en interview, son livre, et Cali en musique, j'imagine, un petit peu quand même.
Toujours un petit peu.
Évidemment, on va se faire plaisir. Émilie Mazoyer en musique jusqu'à 22h sur Europe 1. À demain, Blin.
À demain, Mathieu Béliard, 17h. Merci, et à suivre l'information avec François Geffrier sur Europe 1. Europe 1.